Je vous invite à faire une lecture dans la parole de Dieu, Évangile de Luc, chapitre 9 et au verset 25. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Mais il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait encore, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Un récit merveilleux de la transfiguration. Il nous est dit que l'aspect du visage de Jésus changea. Cette scène est unique dans la Bible. Pierre la rappelle dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, verset 17, et il dit « Nous avons vu de nos yeux et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. » Jean aussi, dans l'évangile qui le concerne, au chapitre 1er, verset 14, il dit « Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Le mot « transfiguration » veut dire « changer d'aspect totalement, glorifier, passer de l'aspect physique à l'aspect glorieux ou céleste. Ils ne connaissaient pas Jésus sous cette forme et sous cet aspect, mais ils le connaissaient sous une forme humaine, physique. Ils connaissaient en quelque sorte, comme dit Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 16, ils connaissaient Jésus selon la chair. Ce Jésus qui allait de lieu en lieu, qui guérissait les malades, mais qui était aussi un Jésus comme tout homme, qui eut faim, qui eut soif, qui a pleuré, qui a été fatigué, qui vivait comme tous les humains de son époque. Et là, ils vont le découvrir sous une forme glorieuse. Jésus était au centre et Moïse et Élie étaient l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Moïse représente la loi, il représente le Pentateuque en quelque sorte, les cinq premiers livres de la Bible et en quelque sorte il fait référence à tout l'Ancien Testament. Élie, lui, c'est la prophétie. Il faut dire que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, ni les Actes des Apôtres, ni les Épîtres. Il n'y avait comme référence que les textes de l'Ancien Testament, depuis le Pentateuque jusqu'au dernier prophète Malachie. Seul l'Ancien Testament faisait foi pour révéler Jésus. Jésus, Paul, les apôtres, se servaient de l'Ancien Testament, des prophéties et des textes bibliques de l'Ancien Testament, pour prouver qui était Jésus. Dans Jean, au chapitre 5, verset 39, Jésus même fera le reproche aux pharisiens, et il dira « Vous sondez les Écritures, parce que c'est elles qui rendent témoignage de moi. » Et vous pensez avoir la vie éternelle en elle. Jean, au chapitre 1er, verset 17, nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Dans Luc, au chapitre 24, verset 27, il nous est dit que Jésus, dans cette rencontre intime qu'il fera après la résurrection avec les disciples d'Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas, avec lequel il va partager un repas et particulièrement partager le pain, à ce moment-là, Jésus va leur expliquer en se servant des Écritures qui il est et que tout ce qui est arrivé, sa mort et sa résurrection, sont là dans les Écritures. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18 et au verset 28, il nous est dit que Apollos refutait vivement les Juifs qui s'opposaient au message de l'Évangile en démontrant par les Écritures, c'est-à-dire par l'Ancien Testament, que Jésus est le Messie. Jésus est au centre de l'Ancien Testament. Depuis la Genèse jusqu'au dernier livre, le livre de Malachie. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, il est celui qui écrase la tête du serpent. Dans Genèse, au chapitre 14, il est en quelque sorte ce Melchisédek, nous rappelle l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 2. Ce prince de la paix, semblable au Fils de Dieu. Dans Genèse, au chapitre 22, au verset 9, il y a un parallèle étonnant et une image extraordinaire avec ce fils d'Abraham qui est offert à Moria. N'est-il pas, lui, le fils de Dieu, offert en sacrifice à Golgotha? Dans Exode, au chapitre 17, verset 6, il nous est dit que le peuple, dans le désert, buvait à un rocher. Et l'apôtre Paul nous dit que ce rocher, qui avait été frappé, et duquel coulait une source d'eau pour désaltérer le peuple, il nous dit dans les Corinthiens, dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 10 et verset 4, qu'il buvait un rocher et que ce rocher était Christ. N'est-il pas l'eau de la vie? N'est-il pas la source? Dans le psaume 23, il nous est parlé du bon berger. Et Jésus le rappelle d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 10, « Je suis le bon berger ». Dans le livre des psaumes, les textes sont multiples qui nous parlent de Christ, et notamment le psaume 22 et le psaume 69, lorsqu'il est question, et où il nous est dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce passage d'Ésaïe au chapitre 9 et au verset 6 que nous lisons ensemble, si vous le voulez bien. Il nous est dit ici cette prophétie extraordinaire qui annonce le Christ, « Car un enfant nous est né ». Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà des versets qui nous parlent de Christ. Mais un des versets messianiques les plus glorieux et les plus forts que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est ce chapitre 53 du livre d'Ésaïe, où il est question de Christ. Il est écrit ici, au verset 3, « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et nous a dit plus loin que l'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Il a été semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il y a dans ce texte une prophétie extraordinaire et une révélation de Christ extraordinaire. Il est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste en a eu la révélation, comme Jean nous le rappelle dans la première épître de son livre, au verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dit-il. » Oui, Christ est dans l'ombre de l'Ancien Testament. Et il se révèle, page après page, chapitre après chapitre, verset après verset. Il est là, présent. Et il est présent, là, ce jour de la transfiguration, représenté en quelque sorte par Moïse et par Élie. La Bible nous dit que Jésus est plus grand que Moïse. Regardez ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 5. « Moïse a été fidèle comme serviteur. Jésus, lui, l'est comme fils sur sa maison. » Le fils est plus grand que le serviteur dans la maison. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, Moïse lui-même, en quelque sorte, va sacrifier l'agneau, qui est le symbole même de Christ, qui s'offre lui-même. Il est l'agneau pascal, il est notre agneau, et par son sang précieux, nous sommes pardonnés et lavés de tous nos péchés. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 12, il dit que Dieu autrefois a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, maintenant, il parle par le Fils. Matthieu, chapitre 17, verset 5, dans cette même description de cette rencontre de Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration, ajoute un mot qui a son importance. Il termine cette expérience en disant « Écoutez-le ». Devant cette révélation de la Transfiguration, les disciples sont perturbés et remplis de frayeur, remplis d'émotion et en quelque sorte de crainte et de panique, de faux raisonnements. Ils proposent aussitôt à Jésus, à Moïse et à Élie de monter trois petites tentes, là, comme s'ils allaient faire cette nuit-là, disons, une soirée de camping. C'est une réaction tout à fait naturelle. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, en quelque sorte. Ils ne réalisent pas ce moment précieux de cette gloire qui apparaît devant eux. Jésus est au centre de la Bible. Il est au centre de l'Ancien Testament, il est au centre du Nouveau Testament, il est au centre de l'univers, puisque la parole de Dieu nous dit dans les Colossiens, chapitre 1er, verset 16, et dans Jean aussi, au chapitre 1er, verset 3, que tout a été fait par lui et pour lui. Et que dans Hébreux, au chapitre 1er, c'est par lui aussi qu'a été créé l'univers. Jésus est aussi au centre de l'histoire. Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de l'Église. Il nous est dit dans les Colossiens, chapitre 1er, verset 18, qu'il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est aussi le chef, nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Et dans l'Apocalypse, Jean a la révélation de ce chandelier. Et au centre du chandelier, il y a là encore la gloire de Christ qui apparaît. Il est le chandelier, il est la menorah, il est le centre du chandelier. Et le chandelier n'a pas de valeur s'il n'apporte pas la lumière. N'est-il pas dit qu'il est la lumière du monde et que par lui nous avons la lumière? Jésus veut être au centre de tout, au centre de notre Église. L'Église n'est pas un bâtiment comme nous avons l'habitude de le dire. Il est plus que cela, il est un corps et il est la tête. Il est au centre de l'Église. Il est au centre de notre culte, il est au centre de sa parole, il est au centre même de la sainteté, de la vérité. Jésus veut être aussi au centre de notre foyer. Il veut la première place. Dans l'Ancien Testament, en quelque sorte, Josué nous invite à mettre Dieu au centre et nous, chrétiens, nous mettrons Christ au centre. Il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Au centre de notre foyer, eh bien, il y a Dieu que nous voulons servir et que nous voulons honorer. Christ est au centre de ma vie. Jésus ne partage pas. Il ne cohabite pas. La Bible dit « Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière ? Quel rapport y a-t-il entre le mensonge et la vérité, entre Christ et Bélial ?» C'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 14. Dans mon ministère, Christ veut être au centre. Paul avait décidé que pour lui-même, Christ serait le centre de sa vie. Christ est ma vie, ma raison de vivre, les motifs de ma vie. Il est là, Christ est ma vie. Et il avait renoncé à tout pour Christ, nous dit l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 5. Au centre de la parole, au centre de l'Église, au centre même de ma vie, de mon ministère, il y a Christ. Et l'apôtre Paul l'avait compris en donnant cette pensée que l'on trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Il disait « Je ne veux pas savoir autre chose que Christ. Je ne veux pas savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. » Et Christ, bien sûr, ressuscité. Que Dieu fasse que, pendant ce temps de confinement, nous puissions mettre Christ au centre de tout, au centre de mes projets, au centre de ma vie. Le déconfinement approche. Nous allons certainement reprendre nos habitudes, notre façon de vivre, nos occupations, nos projets, nos loisirs, nos ambitions. Mais si Christ, pendant tout ce temps où nous étions là isolés, seuls avec Dieu, Christ a été au centre de notre vie par sa parole, par la méditation et par la prière. Dieu veut que nous puissions continuer à le mettre au centre de notre existence, au centre de nos églises, au centre de notre vie. Cette révélation de la transfiguration est pour nous un appel à chercher à voir la gloire de Christ. Beaucoup se penchent aujourd'hui sur l'Ancien Testament, essayant d'y trouver la réponse eschatologique au temps de la fin, aux révélations sur le Temple, sur Israël. Laissez-moi vous dire une chose, laissez à Dieu ces choses et regardez au centre même de la Bible, Christ qui nous est révélé dans la gloire. Et honorons-le pour cela et adorons-le. L'apôtre Jean, qui a connu Christ selon la chair, pendant les 3 ans et demi où il a cheminé avec Jésus sur cette terre, à la fin de sa vie, va avoir la révélation extraordinaire de Christ dans la gloire. Et il nous l'a écrit dans ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 12. « Je me retournai, dit-il, pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. » Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête était et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant ». J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Que Dieu soit béni pour cette révélation de Christ glorieuse sur la montagne de la Transfiguration. Mais pour nous, nous attendons celui qui nous a aimés. Nous le verrons dans la gloire, et nous serons unis à lui pour l'éternité, parce qu'il a payé, parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang et qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous louons et bénissons le beau nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Que Dieu vous bénisse.